son d'Europe, Catherine Roland.
Marjan Šarec je bil komik. Jaz sem ziher, da bo to en velik špas.
Bonjour à tous. C'est un pays qui a inspiré Carles Puigdemont, le président de l'Assemblée catalane. Le chef des indépendantistes évoque d'ailleurs la voix slovène quand il explique l'organisation du référendum du 1er octobre dernier, jugé illégal par Madrid. La Slovénie, elle, a fait sécession de l'ex-Yougoslavie dans les années 90. Cette petite démocratie se choisit un président dimanche prochain. 9 candidats en lice. Le chef de l'État sortant fait figure de grand favori. Mais au deuxième tour, il pourrait affronter Marjan Šarec, 39 ans, un ancien comique qui veut renouveler la scène politique locale. Un portrait signé Simon Rico.
Avant de se lancer en politique, Marjan Šarec s'est fait connaître du grand public dans les années 2000 pour ses imitations des élus slovènes et des personnalités internationales. Tout a basculé en 2010 quand il a remporté la mairie de sa ville natale, Kamnik, à la surprise générale. Le jeune homme de 32 ans a alors troqué son costume d'amuseur potache pour celui de responsable politique sérieux et respecté. Hormis un bref passage au sein du parti centriste Slovénie Positive, du maire de la capitale Ljubljana, Marjan Šarec a toujours revendiqué son indépendance et son ancrage local. Peu d'observateurs s'attendaient d'ailleurs à sa candidature à l'élection présidentielle et ils étaient encore moins nombreux à croire en ses chances. Sa cible principale, le président sortant, le social-démocrate Borut Pahor, pilier de la scène politique slovène depuis 3 décennies et dont il est devenu le principal challenger en axant sa campagne sur le renouvellement de la classe politique. Avec un slogan aux accents populistes, individu, communauté, pays. Classé plutôt à gauche, Marjan Šarec se montre sensible aux questions sociales. Et s'il s'affiche parfois avec l'étoile rouge, symbole du communisme, il revendique aussi son attachement aux valeurs chrétiennes. Voilà qui ne l'empêche pas d'expliquer que Jésus était le premier socialiste et de plaider pour une séparation plus stricte entre l'Église et l'État. Ces dernières semaines, il fait l'objet d'attaques répétées, la preuve que sa candidature inquiète ses adversaires. On le taxe de manque de sérieux, la droite s'en prend même à son passé d'enfant adopté. Une stratégie très agressive qui semble néanmoins porter ses fruits. Son score stagne autour de 22% d'intention de vote, loin de Borut Pahor, qui pourrait être élu dès le premier tour, dimanche.
Lundi prochain, le Conseil des ministres européens de l'emploi doit se mettre d'accord sur la révision de la directive « Travailleurs détachés ». Instaurée en 1996, cette règle permet à un Européen d'aller travailler temporairement dans un pays en continuant de payer ses cotisations sociales dans son pays d'origine. La semaine dernière, une première étape vers le durcissement a été votée par la Commission Emploi du Parlement européen, car la loi est souvent détournée. Des travailleurs obtiennent ainsi le statut de détaché dans leur propre pays en se faisant embaucher par des sociétés étrangères. En France, il serait 20 000, selon les chiffres d'un rapport parlementaire, à être détachés, notamment par des sociétés d'intérim luxembourgeoises, un phénomène qu'a observé Nicolas Ropper dans l'Est de la France.
Nous sommes dans la vallée de l'acier en Moselle. Au loin, les hauts fourneaux utilisés par la sidérurgie, aujourd'hui à l'abandon. Une zone commerciale est pourtant en plein travaux. Daniel, un plaquiste français, termine sa journée. Il pose une dernière cloison en plâtre. La scène pourrait être banale, sauf que Daniel est en fait un travailleur détaché. Il est inscrit depuis plusieurs années dans une agence d'intérim au Luxembourg, située à peine à 40 km de là.
J'ai commencé à bosser pour une boîte intérim au Luxembourg qui m'avait proposé justement le plan là, donc de travailler en intérim luxembourgeois, mais sur des chantiers français. Et donc là, ça fait 2 ans que je suis ici, quoi.
C'est quoi l'intérêt pour vous ?
Niveau salaire, je gagne 25% à peu près, oui. En plus, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on fait, quoi. Je savais que ça existait, parce que bon, même des sociétés luxembourgeoises, il y en a quand même pas mal qui viennent. Pour moi, ça me va très bien, hein. Donc j'ai tous les avantages du Luxembourg. Les inconvénients.
La rémunération de Daniel est plus élevée que s'il était employé par une société d'intérim française. Et cela ne coûte pas plus cher à son employeur, car les charges au Luxembourg sont environ 2 fois moins élevées qu'en France. Ce système serait utilisé par près de 20 000 personnes, essentiellement des frontaliers. À la tête d'une entreprise de vitrerie installée à côté de Metz, Didier Roche préside la Fédération du bâtiment de Moselle. Il reconnaît avoir eu recours par le passé à ces intérimaires français détachés par le Luxembourg.
Pour être franc, on l'a vu, on l'a utilisé à une époque,
et c'est un phénomène qui est présent. Aujourd'hui, vous avez 90 000 frontaliers qui traversent tous les jours pour aller travailler au Luxembourg. On est écrasé par les charges, on est limité dans les horaires de travail. Un jeune qui a envie de travailler, de gagner sa vie, il va au Luxembourg. Au Luxembourg, il a un SMIG qui est supérieur, il a des avantages sociaux qui sont supérieurs, et comme il habite en France, il vient travailler sur les chantiers en France.
Une ville luxembourgeoise semble même s'être spécialisée dans ce montage, Esch-sur-Alzette, la deuxième ville du Grand-Duché. Autour de la place de la mairie, on trouve pas moins de 34 agences d'intérim. Dans l'une d'elles, on nous confirme qu'il est tout à fait possible de se faire détacher en France en tant que Français. Une seule condition est requise, avoir travaillé au moins 30 jours consécutifs côté luxembourgeois avant de demander son détachement.
Bonjour. Bonjour. Vous parlez français, oui.
Le grand perdant de ce tour de passe-passe, l'État français qui ne perçoit aucune cotisation sociale pour l'emploi de ses Français. Un problème dans une région où le taux de chômage avoisine déjà les 17%. Conseiller général Les Républicains de la région Grand Est, délégué aux travailleurs frontaliers, Édouard Jacques dénonce en tout cas ce manque à gagner.
Eh bien écoutez, ici on est en Belgique, voilà le Luxembourg juste sur ma droite, et on aperçoit la France juste derrière ces bâtiments et ces maisons qui sont là derrière nous. Il n'est pas particulièrement visible, parfois c'est insidieux, hein, les choses sont faites de manière progressive. C'est manifestement légal, est-ce moral, c'est une autre question. Ensuite, c'est pas ce qui va combler le trou de la sécurité sociale, néanmoins, on imagine quand même que les travailleurs travaillant en France payent leurs cotisations en France, ça serait la moindre des choses.
En Moselle, dans certaines entreprises du bâtiment, il arrive que la moitié des intérimaires français soient détachés par le Luxembourg. Un abus que dénonce Didier Roche, le chef d'entreprise, y voit une concurrence déloyale.
C'est une aberration. Ce sont des jeunes qu'on a formés, qu'on a aidés, à qui on a appris le métier et qui nous quittent parce que le SMIG au Luxembourg, il est à 16 euros de l'heure, parce que les charges sont divisées par deux et nous, on ne peut pas s'aligner. C'est UBS, mais c'est comme ça et tout le monde ferme les yeux, on met sous le tapis, on n'en parle pas. C'est incompréhensible.
Ces dernières années, plusieurs amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale pour interdire cette pratique sans résultat. La nouvelle directive sur les travailleurs détachés permettra de lutter contre les détournements du texte original. C'est ce que confirme Elisabeth Morin-Chartier. Cette députée européenne française, membre du groupe conservateur et co-rapporteur du sujet pour le Parlement.
Nous voulons aujourd'hui éviter le dumping social pour les salariés. C'est-à-dire que des salariés sur un même lieu de travail, pour un même travail, aient la même fiche de paie. Mais attention, c'est qu'il faut aussi que cette révision de directive apporte beaucoup plus d'équité pour les entreprises. Parce que certaines vont faire des réponses à des appels d'offres avec des travailleurs détachés. Et donc, cela met une injustice flagrante entre les entreprises.
La nouvelle directive sur les travailleurs détachés devrait limiter le nombre de dérives, mais il faudra un peu de patience. Son application n'est pas prévue avant, au mieux, l'année 2020.
La CAE, coopérative d'activités et d'entrepreneurs, représente une forme nouvelle d'entrepreneuriat alliant autonomie et sécurité. Elle vous accueille.
Et on continue avec les travailleurs, plus précisément français cette fois. On compte désormais dans l'Hexagone une centaine de CAE, ces coopératives d'activité d'entrepreneurs qui ont permis l'émergence de l'entrepreneur salarié. Ces coopératives ont vu le jour il y a 2 ans, suite à la loi sur l'économie sociale et solidaire, en réponse à la précarisation de l'emploi. Toutes les contraintes liées à la création d'une entreprise sont prises en charge par la coopérative qui salarie ses membres, en contrepartie de 10 à 11% du chiffre d'affaires. À Paris, Coopétic regroupe 175 membres, tous dans les métiers du numérique, du web ou de la communication. Frédéric Lebel s'est rendu à une réunion d'information destinée aux nouveaux candidats.
Bonjour.
Ils sont chômeurs, auto-entrepreneurs ou tout simplement payés au cachet, sans assurance maladie ou chômage, bref, sans filet de secours. Et ils sont venus voir quel soutien pouvait leur donner Coopétic, Anita Protopapas, une des gérantes de la coopérative.
Je ne sais pas si c'est une tendance lourde, mais en tout cas, nous, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus arriver, puisque un certain nombre de groupes de presse ne jouent plus le jeu et demandent de la facturation. Donc ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas changer à notre niveau. Simplement, on peut trouver des solutions en termes de statut. C'est ce que la coopérative d'activité, elle essaie de faire. Elle essaie de retricoter du salariat là où il n'y en a plus.
Retricoter du salariat. La formule titille Joseph, ingénieur du son.
Si je me salarie ici, ce serait le premier CDI de ma vie. J'ai 38 ans et je travaille depuis que j'ai 22 ans. Ça fait 16 ans que je travaille, j'ai jamais eu de CDI, alors j'ai toujours travaillé, quoi, vraiment, toujours.
Ça fait envie ?
Oui, ou pas. Voilà.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que son statut actuel d'auto-entrepreneur ne fait pas du tout l'affaire.
Ce qui me fait peur, c'est de ne pas cotiser au chômage parce que j'ai une famille. Donc du coup, il n'y a pas ce filet de sécurité qui est un peu flippant, effectivement. Moi, ce que je dis souvent, c'est que être précaire, pourquoi pas ? Mais si on fait un peu une analogie avec le handicap, quelqu'un qui marche pas bien, c'est pas grave. S'il y a un escalator ou si à la place d'un escalier, il y a une pente, il va pouvoir se déplacer en ville. C'est pareil, si on est précaire, si les propriétaires ne veulent pas vous louer leur appartement ou si les banques ne veulent pas vous faire de crédit, il est là le problème. C'est-à-dire que si après, si on vit dans une certaine précarité professionnelle, mais que derrière, la société suit et que du coup, les portes sont ouvertes aussi aux précaires pour le logement ou d'autres choses, ça serait effectivement beaucoup moins gênant. Ouais.
La coopérative ne se contente pas de ce qu'on appelle le portage salarial. Elle va plus loin et veut épauler des porteurs de projets comme Brigitte, qui veut monter une start-up de détection de composants toxiques dans les cosmétiques, l'alimentaire et les détergents.
Pourquoi une coopérative ? Parce qu'on se rend compte de la limite du système de portage, qui est une boîte de facturation. Or, quand on rencontre des coopératives, on se rend compte qu'il y a ce support-là sur des fonctions administratives, mais il y a aussi de l'échange avec des métiers assez complémentaires. Et donc, c'est plutôt riche dans le quotidien, plutôt que de se retrouver seul face à sa mission, à son client.
Accompagner les futurs entrepreneurs, la vidéo de présentation ne dit pas autre chose.
Vous êtes salarié, intermittent du spectacle, demandeur d'emploi ou auto-entrepreneur. Comme beaucoup, vous souhaitez créer votre activité, c'est-à-dire vivre de votre métier en créant votre entreprise.
Après une période d'essai de 2 ans, Monique est devenue membre à part entière de la coopérative. Elle a monté sa société de communication, reverse 11% de son chiffre d'affaires, mais conserve sa marque.
Je suis un peu phobique des démarches administratives, donc j'avais pas envie de me lancer dans la création d'entreprise avec des choses administratives, comptables. Et en plus, ce que j'ai également apprécié, c'est que ça permet de créer une marque, c'est-à-dire qu'on facture, c'est une entête copétique, mais c'est aussi la marque qu'on peut promouvoir, ce qui n'est pas le cas dans d'autres structures type portage salarial, par exemple.
Pour développer l'esprit de groupe sans lequel une coopérative n'en serait pas vraiment une, Coopétique ne se contente pas d'organiser des pots ou des after-work. Chacun est encouragé financièrement à collaborer avec son voisin. C'est aussi ce qui génère de l'activité. Anita Protopapas.
On ne travaille pas sur la mise en concurrence des uns contre les autres, mais plutôt sur la coopération des uns avec les autres. Pour pouvoir faire en sorte que les gens travaillent mieux ensemble, à partir du moment où ils ont un budget et que le budget est retraité en interne, la contribution elle passe de 11 à 5%. Donc c'est quand même aussi une petite incitation financière à coopérer.
Et puis vous avez créé une monnaie interne.
Oui, on a créé une monnaie qui s'appelle le COPEC, qui permet donc de gérer des échanges non monétaires. Alors ça peut être des prêts de matériel de la coopérative aux entrepreneurs, ou ça peut être un coup de main des entrepreneurs. Par exemple, il y en a qui font des ateliers en interne, qui peuvent être payés en COPEC, ce qui va leur permettre d'acheter d'autres services aussi en interne.
Parce que la flexibilité et la précarité touchent tous les secteurs, Coopétique a aussi monté une branche destinée aux chercheurs, afin que eux aussi puissent valoriser leurs compétences en sécurité.
Et avant de terminer la semaine en musique, c'est Florence Labruyère qui nous emmène à Budapest où se déroule actuellement le festival d'automne Café Budapest. Une manifestation axée sur la peinture, la danse ou encore la musique et tout cela légèrement déjanté.
Espèce d'ordure, c'est le titre du spectacle de rue de la compagnie hongroise Tunette. Les acteurs convient le public à une visite guidée des poubelles dans un quartier de Budapest. Dis-moi ce que tu mets dans ton sac d'ordure et je te dirai qui tu es. Un show humoristique et carrément trash. Une performance choc qui questionne aussi l'indifférence de la société face à ceux qui sont réduits à faire les poubelles, les sans-abri. Ce n'est pas la seule promenade insolite au menu de ce festival d'automne. On peut aussi découvrir un cimetière juif secret qui est d'habitude fermé au public et rendre visite à des peintres et à des plasticiens contemporains. Leurs ateliers seront ouverts à tous les 21 et 22 octobre. Festival varié, coloré et qui se déroule dans toute la ville, Café Budapest met surtout l'accent sur la danse et la musique contemporaine. Point fort du programme, la dernière création du compositeur hongrois Peter Eötvös, interprétée par l'Orchestre royal des Pays-Bas dans le magnifique Palais des Arts au bord du Danube. Café Budapest ambitionne aussi de faire découvrir un artiste africain peu connu en Hongrie, Fela Kuti. Le festival rend un hommage exceptionnel au musicien nigérian disparu il y a 20 ans. Dans une ancienne centrale électrique, devenue la maison des arts contemporains, un grand concert est donné par des artistes hongrois et africains en mémoire du saxophoniste qui révolutionna la musique africaine.
Musique.
Et comme promis, on retrouve le choix musical avec vous, Vincent Théval. On découvre un trio au nom trompeur, très inspiré des années 80.
Bonjour Catherine, direction la Biélorussie. Aujourd'hui avec un jeune trio qui s'est formé en 2013 à Minsk et s'est choisi un nom propre à brouiller les pistes, Super Bass, comme la station de sport d'hiver du Massif Central. Et le groupe biélorusse a poussé loin le jeu des références puisque son premier album paru en 2013 s'intitulait 63610. Oui, il s'agit du code postal de Besse et Saint-Anastèse, la commune où se trouve la station de Superbesse. Le dernier point commun serait à chercher du côté des températures hivernales qui règnent sur la musique du trio, directement inspirée de la cold wave du tout début des années 80, soit des chansons d'où émerge un sentiment d'urgence, de la tristesse et un goût certain pour les aventures nocturnes. D'ailleurs, l'album s'intitule « La nuit » en français dans le texte, mais les paroles sont en russe.
Super Bass, qui comme son nom ne l'indique pas, est en fait biélorusse. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants le journal.
Yeah.